Nous sommes Pentecôte aujourd'hui. Nous fêtons la venue de l'Esprit Saint et nous ne pouvons pas toujours nous imaginer ce que ça a changé. Avec bien sûr la venue de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension et aussi la venue de l'Esprit. Ça donne naissance à l'Église, mais ça a aussi transformé et ça transforme encore nos vies aujourd'hui. Et pour cela, j'aimerais qu'on retourne voir un homme qui n'avait pas encore ce privilège de connaître Christ, qui n'avait pas encore ce privilège d'avoir l'Esprit Saint si présent, si actif dans sa vie. Et c'est un homme qui s'est posé beaucoup de questions. Et c'est un livre difficile, c'est le livre d'Ecclésiaste. Et dans ce livre, l'Ecclésiaste nous livre ses questions. Et bien sûr, ces questions sont liées à sa personne, à son temps. Et nous ne pouvons pas juste nous limiter à la lecture de ces textes sans aussi réfléchir à la suite, l'ensemble de la révélation et aussi la venue de l'Esprit. Mais malgré tout, ce texte nous inspire aussi. Et moi, j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Parfois au point que j'oublie qu'il y a encore un nouveau, mais on me le rappelle suffisamment. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble le chapitre 8 de l'Ecclésiaste. Et on va pas le lire en entier, on va le lire successivement. J'aimerais commencer d'abord juste avec le premier verset. Qui est comparable au sage? Donc Ecclésiaste 8. Qui sait analyser les choses? La sagesse d'un homme illumine son visage et fait disparaître la sévérité des traits. Alors, il y a deux choses dans cette introduction. C'est que l'Ecclésiaste dit, mais qui peut être sage? Et ça, c'est un sujet qui préoccupe l'humanité depuis qu'elle existe. On est toujours à la recherche de la sagesse. Et là, nous avons un grand privilège en tant que chrétiens, parce que déjà dans l'Ancien Testament, l'auteur des Proverbes nous a donné une clé. Il nous a mis sur une bonne piste. Hein, c'est comme parfois avec des enfants, on cache des choses et on leur demande de chercher et on leur dit froid, chaud, très chaud. Et là, il y a un texte qui est très chaud et qui montre qu'on est sur la bonne piste. Parce que dans les Proverbes, il est dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si nous voulons devenir la sagesse, et la sagesse, il faut chercher à tout âge, hein. Tant que je vis, je cherche la sagesse. Eh bien, ça commence par la crainte de l'Éternel, le respect de Dieu. Le respect de la parole de Dieu, le respect de l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais surtout attirer l'attention sur le deuxième aspect qui est un encouragement dans ce texte. L'Ecclésiaste dit, la sagesse d'un homme illumine son visage et fait disparaître la sévérité des traits. Alors avec un peu d'humour, je dis ici, il y a là un programme anti-rides. Un programme anti-potox, un programme qui vaut peut-être plus que tous les crèmes anti-âge et anti-rides. Alors, ceci dit, je suis pas du tout contre, hein, je fais juste de l'humour. Mais je trouve que, et j'aimerais relever ça dans ce texte, l'Ecclésiaste dit, celui qui est sage, ça s'est marqué sur son visage. Sur son visage, on ne trouve pas l'amertume. On ne trouve pas le mécontentement. On ne trouve pas la haine. Mais on trouve la sérénité, l'apaisement, la joie. Et on peut se poser la question, mais comment trouver cette sérénité dans notre monde aujourd'hui? Dans notre monde si complexe, parfois aussi dans notre existence complexe, elle n'est pas toujours toute simple. Comment trouver la sérénité? Et l'Ecclésiaste, il va mentionner trois situations, trois domaines dans lesquels il réfléchit à la sérénité. Et ce ne sont pas des domaines simples. Le premier domaine qu'il mentionne, c'est l'autorité. Après, c'est l'injustice. Et après, c'est la personne même de Dieu. Et voici ce qu'il dit par autorité. Je lis maintenant les versets 2 à 8. Voici mon conseil. Obéis aux ordres du roi à cause du serment prêté devant Dieu. Ne te hâte pas de lui donner ton congé. Ne persiste pas dans une mauvaise situation, car le roi fait tout ce qui lui plaît. En effet, sa parole est souveraine. Qui oserait lui dire « Pourquoi fais-tu cela ?» Celui qui s'en tient à ses ordres ne se mettra pas en mauvaise situation, et le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et la juste manière de procéder. Pour toute affaire, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Mais il y a un grand malheur pour l'homme, c'est que personne ne sait ce qui arrivera. Personne ne peut dire comment les choses se passeront. Personne n'est maître de son souffle de vie. Personne ne peut le retenir. Personne n'a le pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'y a pas de trêve dans la lutte pour survivre. Et ce n'est pas la méchanceté qui sauvera celui qui s'y livre. Un texte quand même un peu dense, hein, un peu complexe. On ne sait pas exactement à qui il est adressé. Certains pensent que ce texte est adressé à quelqu'un qui est dans l'entourage du roi, à quelqu'un qui peut avoir une influence sur lui. Et il faut encore remarquer que à l'époque, qui est quand même loin de la nôtre, la notion d'autorité n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. L'autorité, c'était le roi. Et le roi, il faisait un peu ce qu'il voulait. Et le roi était incontestable. Le roi pouvait décider de la vie et de la mort, du bien et du mal. Et devant cette domination de l'autorité, l'Ecclésiaste, il dit, moi je donne quatre conseils. Le premier conseil qu'il donne, tout simple, tout clair, tout limpide, obéis. Obéis aux ordres du roi. Ça peut nous surprendre, hein, j'y reviendrai un peu là-dessus, ça peut nous surprendre. Mais il dit, obéis à l'ordre du roi, parce que de toute façon, qui es-tu pour le contester? Tu n'as pas les bonnes cartes en main, tu n'es pas en bonne position. Obéis. Et en cela, il est vraiment inspiré de réalisme et de pragmatisme. Et le deuxième conseil qu'il donne, c'est le conseil de prudence. Parce que l'Ecclésiaste sait que le roi n'a pas toujours raison. Et parfois le conseiller a des meilleurs arguments, a des meilleurs conseils, a des meilleures décisions à proposer que le roi. Mais il dit, fais attention. Fais attention, ne va pas contredire, ne va pas confronter le roi. Et troisième et quatrième conseil vont ensemble, il dit, discerne le temps opportun. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, nous avons deux éléments pour parler du temps. C'est le chronos, le temps qui se déroule chronologiquement, et après il y a le kairos, qui est le moment opportun. Et ici, il dit en quelque sorte, attends le bon moment pour parler au roi. Et si tu as l'occasion de parler au roi, il suffit pas de saisir le bon moment, il faut encore trouver la bonne manière de lui parler. Et ça m'a fait penser à plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Par exemple, Joseph, quand il était en Égypte, quand il était en prison, et quand tout à coup il était mis devant le roi, et il a trouvé les mots justes. Ça me fait penser aussi à Esther, dans le livre d'Esther, qui elle aussi à trouver les mots justes, la manière juste de parler au roi, ou à Esdras et Néhémie. Mais l'Ecclésiaste ajoute encore un autre élément. Il dit, mes amis, encore autre chose. Et là, c'est plus délicat. Et il utilise plusieurs fois l'expression « personne ». Il dit, tu dois vivre avec cette réalité que personne ne sait ce dont est fait le lendemain. Personne ne sait ce qui sera de ton lendemain, de mon lendemain. Et ça doit nous inciter aussi à la prudence. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? En quoi ça nous concerne aujourd'hui? Ben, en regardant un peu ce texte, je me suis dit, d'abord, ça m'incite personnellement à l'humilité. C'est facile pour nous de critiquer les autorités. C'est facile pour nous de dire ce qu'ils font de mal. C'est facile pour nous de dire ce qu'ils devraient faire. Mais quand on est soi-même dans une place d'autorité, c'est tout à fait différent. Moi, j'ai passé 30 ans en France et j'ai vu que parfois les politiciens étaient beaucoup mieux dans l'opposition que dans le gouvernement. Parce que c'est plus facile de s'opposer, de râler, de dire ce qu'il devrait faire. Et quand on doit faire soi-même, c'est une autre paire de manches. Je me dis aussi, par rapport à ce texte, nous devons être reconnaissants pour nos autorités. Il n'y a pas d'autorité parfaite et il n'y aura jamais d'autorité parfaite. Mais soyons contents pour ceux que nous avons. L'apôtre Paul, il dit, les autorités sont là pour maintenir l'ordre public et pour limiter le mal. Et quand j'entends les nouvelles, quand je vois ce qui se passe, je me dis, on peut être reconnaissant. J'étais frappé cette semaine dans une lecture sur un site de, je crois c'est le SRF, où c'était marqué que pour la première fois depuis 20 ans, dans le monde, il y a plus d'autocratie que de démocratie. Et je me dis, soyons reconnaissants. Et prions aussi. Prions pour ceux qui exercent une autorité. Prions pour nos gouvernements, pour nos politiciens. Ça ne veut pas forcément dire approuver, mais simplement les remettre à Dieu. Et ne pas oublier que Dieu nous demande de prier. Prier, c'est un acte d'obéissance. Et l'Esprit Saint nous aide aussi dans nos prières. Il nous aide dans nos prières pour nous, mais il nous aide aussi dans nos prières pour nos autorités. Et après tout, face aussi à nos propres responsabilités, essayant de les exercer au mieux, parce que nous avons tous des responsabilités. Responsable de nos vies. Et en tant que tel, nous devons aussi nous prendre en charge. Voilà le programme anti-ride par rapport à l'autorité. C'est que l'Ecclésiaste dit, en quelque sorte, ne t'énerve pas outre mesure. Moi, je me souviens, en France, j'ai souvent visité une dame âgée, elle avait 90 ans, et chaque fois quand j'allais chez elle, elle me dit « Léo, tu te rends compte dans quel monde vivons-nous? Le monde va mal, les autorités vont mal. » Et chaque fois je lui dis « C'est vrai, mais Dieu est plus grand. Dieu règne et Dieu il a un projet et Dieu va venir à bout. » Elle me dit « Ah oui, c'est vrai. » Elle était apaisée, on a prié ensemble. Et ça sert à rien de se soucier. Moi, quand je lis, quand je m'informe le matin dans le journal, je me dis, mais il y a que des mauvaises nouvelles partout. Mais après, j'essaye de m'inspirer pour cela, pour prier. Et pour remettre ça à Dieu. Et pour croire que Dieu va finir. Deuxième domaine où nous pouvons aussi avoir des rides, où notre visage peut aussi marquer par la tristesse, par l'amertume, c'est l'injustice. Et voici ce qu'il dit dans les versets 9 à 14. « J'ai vu beaucoup Tout cela, je l'ai vu et j'ai beaucoup réfléchi. Il arrive qu'un homme domine les autres pour leur faire du mal. J'ai vu des méchants être enterrés. Les gens allaient et venaient du sanctuaire et ils le louaient dans la ville pour qu'ils avaient fait. Cela est déplorable. Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas vite exécutée, le cœur humain est porté à faire beaucoup de mal. En effet, il arrive que le pécheur fasse 100 fois le mal et se voit prolonger ses jours. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, du fait même qu'ils ont cette crainte à son égard, mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant, et que semblable à l'homme à l'ombre, il ne verra pas ses jours se prolonger, parce qu'il ne craint pas Dieu. Mais il y a une autre chose déplorable qui se passe. Certains justes subissent le sort que méritent les agissements des méchants, et certains méchants ont le sort que méritent des œuvres justes. Je me suis dit que là encore, c'est un fait déplorable. Et c'est vrai que l'injustice dans le monde, l'injustice que nous subissons, et parfois aussi l'injustice que nous infligeons aux autres, parce que nous ne sommes pas que victimes, nous sommes parfois aussi acteurs de la vie, le thème de l'injustice est pour nous une source de souffrance. Quand je regarde sur ma vie, je peux pas dire que j'ai particulièrement été traité injustement. Il y en a pour qui c'est beaucoup pire. Hein, quand je pense à des gens qui doivent fuir un pays, à des gens dont les proches sont même mis à mort injustement dans certains pays, je peux pas trop me plaindre par rapport à ça. Mais malgré tout, j'ai eu aussi mon petit lot d'injustice. J'ai eu aussi mes petites nuits, mes nuits de pleurs, mes moments de rage, des moments où je me souviens, je suis allé dans la forêt crier ma frustration, pleurer ma frustration, parce que j'ai trouvé qu'on était injuste avec moi. Je ne dis pas forcément que c'était le cas, parce qu'on n'est pas neutre par rapport à soi, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai ressenti. Et il y a eu des moments dans ma vie où j'avais du mal à pardonner, des moments dans ma vie où l'amertume a quand même pris une certaine place. Et dans tous ces moments-là, j'ai découvert que Dieu est un Dieu qui apaise, que Dieu est un Dieu qui peut nous aider à obtenir le pardon, à obtenir la grâce. L'Ecclésiaste ici, il voit le problème, il le cerne bien, mais je veux dire, nous sommes privilégiés par rapport à Jésus-Christ, par rapport à la venue du Saint-Esprit, qui nous permet peut-être d'envisager cela autrement. Mais on peut le tourner dans tous les sens qu'on veuille. Le thème de l'injustice nous touche quand même, comme ça l'a touché aussi l'Ecclésiaste. Et par rapport aux applications à faire, par rapport à ce sujet, je me dis, la première chose, c'est reconnaître le caractère frustrant, révoltant de l'injustice. Faut pas s'habituer. C'est quelque chose qui doit nous heurter, qui doit nous sensibiliser. Parfois, je suis aussi peut-être marqué par l'autre phénomène, c'est que à entendre tous les jours dans les nouvelles les injustices, je finis par être insensible à l'injustice. Et même par rapport à l'injustice dans mon entourage, parce qu'il y a tant. Mais je crois que nous ne devons pas nous habituer à l'injustice. Nous devons nous efforcer, là où c'est possible, de tout mettre en œuvre en faveur de la justice. Déjà si chacun, dans son entourage, prie et agit pour rechercher la justice, ça fait beaucoup de choses. Et je peux vous dire, c'est pas une grosse confession, mais je peux vous dire, j'ai pas seulement souffert de l'injustice dans le monde, j'ai aussi souffert de l'injustice dans l'Église. Et l'Église est parfois aussi un lieu où on n'est pas toujours juste. Et c'est aussi dans l'Église où nous devons apprendre à être justes. Et aimer les uns les autres, c'est aussi être juste les uns avec les autres. Rechercher cette justice. Et troisièmement, par rapport à ce thème, je crois que nous pouvons nous réjouir dans notre Seigneur Jésus-Christ et dans son esprit, parce que les Écritures nous promettent un règne un jour, un règne de justice et de paix. Et l'Ancien Testament en parle beaucoup, et dans le Nouveau Testament, c'est présent aussi. Jésus-Christ est venu comme celui qui va inaugurer un règne de droit, de justice et de paix. Et ça, c'est notre espérance. Je suis souvent plongé dans l'Ancien Testament et je me réjouis quand je lis les textes qui décrivent ce règne de Dieu où il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances, mais que justice et bonheur. Et ça, ça doit nous booster, nous encourager et aussi nous préserver de l'amertume. Miroslav Volf, un théologien croate, qui a vécu la guerre, qui a vécu des injustices, il disait « Seuls les chrétiens peuvent être des véritables pacifistes parce qu'ils renoncent à la vengeance, parce qu'ils croient à un Dieu juste. » Et je crois que dans cette notion de Dieu juste, Dieu qui va faire justice un jour, mais aussi justice envers moi, il y a à la fois le respect pour Dieu, mais aussi une espérance apaisée et un antidote contre l'amertume, contre la haine, contre les rides du mécontentement et de la tristesse. Et finalement, en dernier lieu, l'Ecclésiaste réfléchit sur la personne de Dieu. Et là, il dit à partir de verset 15, « Alors, j'ai fait l'éloge de la joie. En effet, il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon de manger, boire et se réjouir. C'est là ce qui l'accompagne au milieu de son labeur auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Lorsque je me suis appliqué à connaître la sagesse et à considérer les occupations auxquelles l'homme se livre sur la terre, en se refusant le sommeil ni jour et nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Or l'homme ne peut comprendre l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut comprendre l'œuvre qui se fait sous le soleil. Il a beau se donner de la peine pour comprendre, il n'y parviendra pas. Et même si le sage prétend savoir, en réalité, il ne peut pas comprendre. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et tout ce que j'ai compris, c'est que les justes, les sages et leurs travaux sont dans les mains de Dieu. Ici, l'Ecclésiaste, il réfléchit sur la personne même de Dieu, et il dit en quelque sorte, mais même Dieu, je ne le comprends pas. Je comprends pas toujours comment il agit. Parfois, il me semble que Dieu agit de manière que je comprends, qui me paraît juste. Et parfois, Dieu agit totalement différent. Et pour moi-même, contradictoirement. Et j'essaye avec ma sagesse de comprendre Dieu, mais je dois être amené à ma conclusion, je ne comprends pas Dieu. C'est un peu ce qui est arrivé à Job. Job, il a dit aussi à un moment donné, je comprends pas Dieu, je comprends pas Dieu. Et nous devons aussi admettre que nous ne comprenons pas toujours Dieu. Et même si nous sommes privilégiés par rapport à l'Ecclésiaste, nous avons la parole de Dieu beaucoup plus large et nous avons l'Esprit de Dieu et nous comprenons beaucoup plus que l'Ecclésiaste. Mais nous ne comprenons pas tout. Et parfois, quand on me dit « la Bible répond à toutes vos questions », je dis non. Elle ne répond pas à toutes les questions. Mais elle répond à toutes les questions que Dieu a jugées utiles, que je dois savoir. Ça oui, 100%. Mais tout, non. Et je crois même qu'il y a une grâce qu'on ne sait pas tout. Je crois même que notre ignorance sur Dieu, sur nous, sur notre avenir, c'est pas qu'une menace, c'est aussi une grâce. Il y a longtemps, ma fille, quand elle était toute petite, elle était à l'hôpital, elle avait 1 an, j'ai dû l'amener aux urgences, et il y a une dame qui est venue me voir très inquiète, elle a commencé à me dire tout ce que ma fille pourrait avoir. Et j'ai dit non. J'ai dit, je veux pas savoir. Alors elle était surprise, mais j'ai dit, écoutez madame, vous prenez le temps, vous faites toutes les analyses, et une fois que vous saurez ce dont elle souffre, vous me le dites, et à ce moment-là, je ferai face, mais vos dangers hypothétiques ne font que m'angoisser. J'ai dit, laissez mon ignorance, elle me protège. Elle a été un peu perplexe, mais elle a accepté, et j'ai dû attendre, je sais pas, 3-4 jours. Et après, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais écoutez, tous les gros dangers sont écartés. Il n'y a finalement pas grand-chose. Et on a eu une très bonne discussion. Et ça m'a vraiment, c'est une expérience qui m'a marqué. Et je me dis, le fait que nous ne savons pas tout, c'est aussi une grâce. Moi, je suis content de ne pas savoir tout. J'ai dit, je suis à la retraite maintenant, je suis content, mais je suis content de ne pas savoir combien de temps ce temps va durer. Sinon, je commence le décompte. Mais tant que je ne sais pas, ça me fait du bien de ne pas savoir. Et même sur les choses que Dieu fait, c'est bien de ne pas tout savoir. Alors, confions notre ignorance à Dieu. Et il me semble que, j'arrive ici tout doucement à la conclusion, il me semble vraiment que l'Ecclésiaste, et il dit, gardant notre visage souriant, gardant la sérénité sur notre visage, parce que Dieu gère. C'est pas à nous de gérer. Les autorités, nous savons certaines choses, mais au-dessus de tout, Dieu est l'autorité. Par rapport aux injustices, nous pouvons faire ce que nous devons faire, et c'est important, mais celui qui est juste, c'est Dieu. Et par rapport à Dieu, le fait de ne pas tout savoir, c'est pas grave. Confions-nous en Dieu parce qu'il est juste. Et trouvons donc ce visage serein. Et quand j'ai pensé à ce visage serein, j'ai pensé à quelqu'un dont le visage n'a pas du tout été serein. J'ai pensé à quelqu'un dont l'Écriture dit même « son visage a été défiguré ». Son visage a été défiguré au point de cesser d'être considéré comme un être humain. C'est ce que dit le prophète Ésaïe dans le chapitre 53 par rapport à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, sur la croix, il n'y avait pas de sérénité. Il y avait des rides, il y avait de la douleur. Et Jésus-Christ a accepté que son visage soit défiguré afin que notre visage soit rayonnant. Il a accepté que son visage soit défiguré parce qu'il a porté sur lui nos douleurs, nos péchés, notre mal, même nos souffrances. Il a pris sur lui. Et soyons reconnaissants et tournons-nous vers lui. Et en conclusion, j'aimerais lire un passage dans 2 Corinthiens 3:18. Où maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament, où nous sommes après Pentecôte. Et voici ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3:18. Et nous tous qui le visage découvert, contemplant comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de son esprit. Pentecôte, c'est aussi être marqué par l'Esprit de Dieu afin de porter la sérénité, la joie, la confiance, l'espérance sur nos visages, mais dans nos cœurs et dans notre vie quotidienne. Et c'est ce que je souhaite pour chacun. J'invite encore à prier. Merci Seigneur pour ton œuvre accomplie sur la croix, ta venue, mais aussi la venue de l'Esprit Saint. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes cette sérénité. Nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait. Nous avons beaucoup de raisons à nous inquiéter, mais nous avons une raison suprême à nous réjouir, à être dans la confiance, à être dans la paix, à être apaisé. Parce que malgré tout, toi, tu règnes. Tu vas construire ton règne de paix et de justice. Et tu nous invites à nous confier en toi, à marcher avec toi fidèlement, à témoigner de toi, à nous attendre à toi. Et ensemble, nous pouvons dire que ton règne vienne. Et il viendra. Amen. Thank you.